Regardons ensemble dans notre passage en Éphésiens chapitre 6. Armée et... ça c'est l'enfant de Dieu. Armée et dangereux. Armée et dangereux. Souvent, lorsque nous parlons de combat spirituel, les gens ont l'impression que, oh, j'ai un combat à mener, il faut que Dieu m'aide. Non. Nous sommes armés et dangereux. Éphésiens chapitre 6, au verset 10. Au reste, après tout ce que je vous ai dit, en d'autres termes, nous allons conclure en disant ceci. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, nous avons vu la semaine dernière la force de Dieu. Comment se fortifier dans le Seigneur et devenir invincible. L'enfant de Dieu est appelé à être invincible devant les forces des ténèbres. Invincible, imprenable. Dites imprenable. Imprenable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ça, c'est un mot que nous avons beaucoup aimé la semaine dernière. Vous vous souvenez? Ferme. De tenir ferme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons vu que notre lutte n'est pas contre les frères et sœurs. Alléluia. Ni contre notre voisin ou notre voisine, même si parfois ils peuvent être un peu difficiles. Mais qu'il y a une réalité spirituelle. Et il y a deux mondes spirituels qui s'opposent. Et que la réalité spirituelle du diable essaie toujours d'influencer nos vies. Il y a toujours quelqu'un qui vous influence. Si ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Alléluia. Chacun doit choisir son influence. Moi, j'ai choisi mon influence. Je déclare toujours que chez moi, c'est territoire Jésus. Interdiction totale pour toute activité démoniaque. Ici, c'est territoire Jésus. Partout, là où je vis, c'est territoire Jésus. Vous entrez dans ma maison, vous entrez dans une agence du royaume de Dieu. Dans une mission diplomatique du royaume de Dieu. Et partout où je vais, mon intention, c'est de convertir le lieu en une mission diplomatique du royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes ambassadeurs de Christ, des représentants de Jésus sur la terre. Et lorsque vous allez dans une ambassade, est-ce que vous savez que si vous allez dans l'ambassade de quel pays? Oh Seigneur! Vous allez dans l'ambassade du Cameroun, dès que vous entrez dans l'ambassade du Cameroun, vous n'êtes plus en France. Est-ce que vous le savez? Vous n'êtes plus en France. C'est sur le territoire parisien, mais dès que vous entrez dans l'ambassade, vous êtes en territoire étranger. Est-ce que vous savez que la police française ne peut pas entrer dans l'ambassade comme ça? Non. Il y a des règles diplomatiques à respecter. La parole de Dieu nous dit que le diable est le prince de ce monde. Mais dès que vous arrivez dans ma maison, il n'est plus prince. Nous sommes appelés à conquérir du territoire. Nous sommes appelés à transformer nos nations, à rendre effective la victoire de Jésus. Nous avons vu longuement le nom de Jésus. Le fait que nous avons en tant qu'homme et en tant que chrétien un mandat d'exercer la domination et d'amener toutes choses à l'obéissance de Christ. Et l'apôtre est en train de nous rappeler ici la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons. Lorsque je suis venu à Christ, j'ai pris conscience d'une réalité spirituelle. Avant, je pourfendais tous les gens qui parlaient de choses spirituelles. Parce que j'étais une petite intello qui croyait tout savoir. Et je me manquais même des chrétiens, je vous ai raconté ça parce qu'ils parlaient de chasser les démons. Je dis, mais vous êtes superstitieux. Vous êtes pire que ces gens qui suivent les religions traditionnelles africaines. Vous êtes superstitieux, vous croyez à l'existence des esprits. Mais j'avais quand même saisi une chose, c'est que eux croyaient qu'ils avaient autorité sur les esprits, que les autres souhaitaient les apaiser et attirer leur faveur et leur offrir des sacrifices pour qu'ils ne se fâchent pas. Alors que les chrétiens considéraient qu'eux avaient l'autorité et le droit de les expulser. J'avais quand même vu la différence, mais je croyais qu'ils étaient quand même un peu bizarres. Sauf qu'en venant à Christ, j'ai pris conscience de la réalité du monde spirituel. Et c'était d'ailleurs dans le sens positif, parce que quand je suis née de nouveau, Dieu m'a fait un don extraordinaire. J'ai compris que j'étais entrée dans un autre monde spirituellement. C'était devenu palpable. C'est difficile à expliquer, mais le fait d'entrer dans le royaume de Dieu spirituellement pour moi était une réalité. Je me sentais, je savais, waouh, je suis dans un autre monde. Et j'ai passé du temps à cogiter là-dessus, à me dire, mais c'est incroyable. Ça existait dans le même endroit, dans la même atmosphère où je vivais avant, mais je n'en étais pas consciente. J'étais consciente de deux mondes qui existaient côte à côte et que j'étais passée de l'un à l'autre. Mais toujours dans le même espace physique. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Dans ce même espace physique qu'est la terre, j'étais passée d'un monde à un autre. Et ce n'était pas le fait de commencer à aller à l'église, parce que je n'allais pas à l'église au début, je n'aimais pas les chrétiens. Mais cette conscience d'être entrée dans un nouveau monde, d'être dans une nouvelle réalité spirituelle, était vraiment aiguë. Et je bénis Dieu pour cette réalité, parce que j'étais tellement incrédule. Et les choses de Dieu sont devenues palpables, et je suis devenue une évangéliste. Et j'ai raconté à tout le monde, il faut que tu sois sauvé, tu connais pas Jésus? Mais il y a une réalité spirituelle. Deux mondes parallèles qui s'opposent. La question est de savoir dans lequel êtes-vous et lequel vous influence. Parce que même lorsque vous passez, comme la parole de Dieu nous dit, de la mort à la vie, nous sommes transférés dans le Colossiens des ténèbres, dans le royaume de son Fils bien-aimé, lorsque nous donnons nos vies à Jésus. J'explique toujours quand les gens viennent au Seigneur, ce n'est pas simplement maintenant je fais une prière, maintenant je vais à l'église. C'est que spirituellement, tu as changé de domicile. Il y a un transfert qui s'est opéré sur le plan spirituel. C'est pour cela où je donne ma vie à Jésus et ce transfert se fait, où je ne le fais pas et je reste dans les ténèbres. C'est une réalité spirituelle. Il y a un transfert, un changement de domicile, de lieu d'affectation. Mais même lorsque l'on a changé de domicile et que maintenant nous sommes passés dans le royaume de son Fils bien-aimé, l'apôtre est en train de nous dire ici qu'il y a tout de même des forces de l'autre monde contre lesquelles nous devons combattre, qui continuent à essayer de nous influencer, qui continuent à essayer de dominer sur nous. L'apôtre parle dans un autre épître des fils de la rébellion et de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Il y a des esprits qui agissent et ces mêmes esprits, lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, vont essayer de continuer à agir. Je vous ai dit que le diable est en hors la loi. Légalement, il n'a plus le droit. Nous avons vu longuement que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Sa victoire a été totale. Et cette victoire, c'était pour nous. Parce que c'est un homme qui a péché. Il fallait que ce soit un homme qui amène la restauration et la réconciliation avec Dieu. C'est la seule raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre comme un homme. Jésus n'était pas un homme. Il est important que les chrétiens le comprennent. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole ensuite s'est faite chair. Et Jésus a choisi de devenir un être humain. Parce que c'est un être humain qui a péché. C'est un être humain qui a cédé l'autorité à Satan. C'est un être humain qui a perdu la domination sur la terre. Il fallait que ce soit un être humain qui amène la réconciliation avec Dieu. Et donc, tous ceux qui viennent à lui reçoivent le salut. Parce qu'il y a une réalité spirituelle. Et lorsque les gens vous disent, vous êtes sectaire, pourquoi c'est que Jésus? Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut donner le salut. Il n'y a que Jésus qui a payé le prix pour le péché. C'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas parce que les chrétiens ont envie de dire qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est parce que les chrétiens ont découvert qu'il y a une personne qui a fait le nécessaire pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Et aucun homme n'aurait pu le faire. Aucun prophète, aucun individu n'aurait pu le faire parce que tous étaient pécheurs. Quelqu'un qui n'était pas sous l'emprise du péché d'Adam devait faire le nécessaire. Et Jésus était sans péché. Et parce qu'il l'a fait, il a repris cette autorité. Et avant de partir, il l'a délégué à son église. Et il a tant que nous prenions conscience de ce qu'il a fait et de là il nous positionne et que nous commencions à agir sur la terre comme des ambassadeurs de Christ. Mais un ambassadeur doit d'abord être imprégné de son mandat et de l'autorité qui lui a été confiée et de la puissance de celui qui l'envoie. Oh, nous avons souvent cette attitude en tant que chrétiens en pensant que Dieu nous a sauvés et nous bénit et nous restons dans la médiocrité et nous vivons au jour le jour, nous dansons beaucoup, nous chantons que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse et nous mourons dans la médiocrité. Et rien n'est changé par nous. Aucune vie n'est transformée par la nôtre. Nos sociétés ne sont pas transformées par nous. C'est une aberration. Dites aberration. Imaginez, si Jésus était sur la terre, qu'est-ce qui se passerait? Si Jésus vivait à Paris. Mais vous vivez à Paris. Et parce que vous vivez à Paris, c'est comme si Jésus vivait à Paris. Raison pour laquelle il nous faut renouveler notre intelligence. Dieu, les pensées de Dieu sont infiniment supérieures aux nôtres. Mais nous sommes bénis parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées de Dieu, qui amène la conviction, qui nous permet de saisir et de voir. Donc l'apôtre nous dit que nous sommes en lutte contre ces esprits, que Jésus a vaincu. Mais qui ne veulent pas lâcher prise et qui ne veulent pas que soit être délogé. Mais quelqu'un doit exercer l'autorité et les déloger. Et ce quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est vous. Et ce n'est même pas compliqué. Simplement apprendre ce qui est à nous, ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné infiniment plus que ce que nous imaginons. Mais parce que nous avons les mêmes priorités que les gens du monde. Notre obsession, c'est la même chose. Travail, mari, argent. Travail, femme, argent. Et c'est le sujet constant de nos prières. Ce qui fait que les choses, les excellences de Dieu, nous ne les voyons pas. Donc nous avons nos églises remplies de gens malheureux parce qu'ils viennent de recevoir une bénédiction, mais ils attendent un autre. Il y a toujours une bénédiction à attendre. Si votre bonheur attend la prochaine bénédiction, vous ne serez jamais heureux. Mais Jésus nous dit de nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Et lorsque nous savons nous réjouir de cela, nous sommes tout le temps heureux. Tout le temps. Tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu attend de nous que nous devenions des étudiants de sa parole. Que nous devenions des amoureux de sa présence, à qui il va révéler les choses qu'il nous a confiées. Et un petit homme, une petite femme, qui laisse Dieu déverser en lui la révélation, devient armé et dangereux. Moi, je veux être armée et dangereuse. Armée et dangereuse. Influencée exclusivement par Jésus. Influencé exclusivement par les pensées de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Je suis toujours émerveillée par Dieu. Dieu n'a jamais une seule pensée de faiblesse. Dieu n'a jamais une seule pensée d'abandon. Dieu n'a jamais une seule pensée de défaite. Si Dieu considère que je ne suis pas censée être vaincue, moi aussi je considère que je ne suis pas censée être vaincue. La parole de Dieu nous dit que nous qui avons reçu le don de la grâce, nous sommes censés régner sur la terre. Au lieu de dire, ah oui, mais ça, moi, je suis pas comme ça, moi, je peux pas dire, ah bon? Ah ben voilà, c'est ce que je vais faire. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Change ma façon de penser. Je veux voir comme tu vois, penser comme tu penses, parler comme tu parles et agir comme Jésus sur la terre. Tenir ferme, résister. Ça, c'est des mots que nous devons commencer à aimer. Résister. résister, pas capituler. La semaine dernière, je vous ai dit que nous n'avons pas ordre de capituler. Nous avons ordre de tenir ferme. Quand le diable vient contre vous, vous tenez ferme. Vous lui tenez tête, comme vous faites souvent à Jésus. Vous lui tenez tête. Ah, non, pas question. Non, je ne lâche pas. Non. Non, non, non. Défense d'entrée. Zone interdite. Ici, c'est ma vie. Ce n'est pas une poubelle. Tu n'y as pas accès. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, sont les bienvenus. Mais toi, non. Pas ici. Et c'est évident que pour pouvoir le faire, il y a des principes qui doivent être établis dans nos vies. Une fois, je parlais avec quelqu'un et je lui expliquais que souvent les gens aiment la personne de Jésus, mais pas les principes de Jésus. Alors ils lisent dans les évangiles, ils voient que Jésus faisait du bien. Ils lisent pas, c'est curieux, ils lisent pas l'évangile de Jean où là où Jésus reprenait les gens sévèrement. Ils ont cette image d'un Jésus doux, en robe longue et en sandales. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Mais ils n'aiment pas les principes de Jésus. Or, un chrétien doit savoir que Dieu a des principes. Il a des pensées. Et ce ne sont pas toujours les nôtres. Et très souvent, les gens vous disent, ouais, mais moi, je pense que... Tu penses, et alors? Qu'est-ce que Dieu pense? Et lorsque nous commençons à voir quelles sont les pensées de Dieu, nous voyons que nos vies seront différentes. Résister. Tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, il y aura des choses à surmonter. Nous sommes censés les surmonter. Et après les avoir surmontés, tenir ferme. Next. Ils arrivent, paf, paf. Suivant. Il y a encore quelqu'un? Ah. Ensuite, il nous dit quels sont ses principes. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité. Et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et continue en disant, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Petit aparté, samedi matin, il y a réunion de prière ici. Et nous faisons toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Revenons au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'apôtre Paul a écrit cette lettre en prison. Et en prison, il y a des soldats romains qui montent la garde. Nous pouvons très bien concevoir, comme Jésus lorsqu'il disait ses paraboles, et qu'il voyait, une situation, il commençait à utiliser cela comme exemple. Il leur racontait des histoires basées sur des images qu'ils comprenaient bien. Et l'apôtre ici en prison, entouré de soldats romains, peut très bien regarder ces soldats et voir comment ils sont vêtus, voir comment ils se protègent. Et dit, mais c'est l'image pour le chrétien. Comment le chrétien doit se protéger? Parce que lorsque vous lisez toutes les armes qui sont évoquées ici, toutes sauf une sont des armes défensives. Et si nous sommes censés avoir des armes défensives, c'est que nous allons être attaqués. Dites attaqués. Il faut s'y habituer. Par ailleurs, il parle ici de pouvoir tenir ferme le mauvais jour. Parce qu'il y a un mauvais jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons vaincu. Par le sang de l'agneau. Alléluia. Une bataille dont l'issue est connue n'est pas une bataille dont on doit avoir peur. Et là, il regarde ce soldat romain, je le vois bien regarder ce soldat romain, il dit, mais ils sont protégés. Ils ont leur casque, ils ont leur cuirasse, ils ont les chaussures, ils sont couverts de partout. C'est difficile de les atteindre. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit être. Il y a des principes qui doivent être présents dans nos vies, qui font que nous sommes couverts, nous sommes protégés, et c'est difficile de nous atteindre. Satan ne doit pas avoir autant de facilité à vous déprimer. Quelques petites pensées mauvaises. Je comprends rien, moi. Vous ne devez pas être des cibles faciles. Un enfant de Dieu doit être tellement protégé que même quand on envoie une mission vous attaquer, ils y pensent par deux fois. Ah, là, non, c'est trop chaud. Ah, non, ça, je vais, ah, non, il faut y aller. Non, il faut y aller. Non, il faut y aller. Non, parce que là-bas, c'est dur. Non, on n'y arrive jamais. Après, on revient tabasser. C'est une réalité spirituelle. Pourquoi est-ce que lorsque les sept fils de Séva essayaient de faire sortir les démons, ils ont dit quoi? Vous, vous êtes qui? Jésus, on connaît, Paul, on connaît, mais vous? Allez, dehors! C'est vous qui sortez! La question est de savoir, est-ce que vous êtes tellement couvert, protégé, tellement couvert dans l'esprit, que lorsque les démons ont une idée de venir chez vous, ah, non, là, Non, on va plutôt aller chez la sœur. Elle nous accueille toujours, la porte grande ouverte. Dès qu'on vient, vous dites, ah, entrez, installez-vous. C'est la sœur chère, je me mets par terre, parlez. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah ouais, ah ouais. C'est une réalité. Ils connaissaient Paul. Et ils savaient que si Paul leur parlait, ils étaient obligés d'obéir. Mais il y a d'autres, ils ont dit, vous êtes qui? Ne permettez vraiment pas au diable de vous mépriser. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc des principes essentiels qui font en sorte que nous sommes couverts et protégés spirituellement de la tête jusqu'aux pieds. Jusqu'aux pieds. Il commence en disant, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et nous savons qu'à l'époque, la ceinture, ce n'est pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui mettent encore des ceintures, surtout les jeunes? Enfin, je les vois dans le métro, j'ai envie de leur offrir une ceinture. Tenez, ça coûte pas cher, je vous donne. Et même les gens qui mettent des ceintures, en général, sauf chez les jeunes, les pantalons ne tombent pas nécessairement sans ceinture, n'est-ce pas? Parce qu'on les met à sa taille. Mais à l'époque, la ceinture, c'était autre chose. Ils portaient des robes et ils mettaient les ceintures pour tout tenir. Et la ceinture était une partie vitale. Et pour les soldats romains, ils avaient aussi une partie où ils mettaient leur épée. Et donc, ils prennent toutes ces différentes parties de l'armure pour nous dire ces principes de Dieu doivent être vraiment pleinement dans vos vies. Et c'est comme ça que vous êtes protégé spirituellement. Et lorsqu'il parle de la vérité ici, qu'est-ce que la vérité? La même question que Pilate a posée à Jésus. Et nous avons une réponse très simple dans la parole de Dieu. Jésus est la vérité. L'évangile est la vérité. La vérité de ce que Dieu est. Et l'opposition, c'est entre Dieu, vérité, et Satan, mensonge. Et Jésus a dit lui-même de Satan que c'était un menteur. Et l'une de ses armes les plus puissantes, c'est le mensonge. Et nous devons être imprégnés de la vérité. La vérité de Jésus, la vérité de Dieu. Qui est ce Dieu que nous servons? Quelle est la nature de Dieu? Quel est le cœur de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu nous concernant? Qu'est-ce que l'évangile nous révèle sur la personne de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils bien-aimé. Comment donc est-ce que quelqu'un qui est né de Dieu peut se demander si Dieu l'aime? Là, c'est en absence de révélation de la vérité. Je dis toujours que Dieu doit faire une exception pour ne pas vous aimer. Je ne vous demande jamais si Dieu m'aime. Évidemment, Dieu m'aime. Et ça ne veut pas dire que je suis merveilleuse, parce que Dieu est amour. Dieu aime, c'est sa nature d'aimer. Est-ce que moi je l'aime? Ça c'est autre chose. La vérité sur Jésus, sur Dieu, sur la rédemption, sur le salut, la vérité sur le plan de Dieu pour nos vies. Quel est le but de Dieu pour l'homme? Quel est le but de Dieu pour vous? Lorsque Satan vient vous dire des choses, est-ce que vous les croyez facilement? Ou est-ce que vous dites, non, fouché. Bon, je te dis ce que dit la parole de Dieu. La vérité. Et cette vérité doit nous imprégner. Nous devons y méditer constamment. Il y a des gens qui passent leur temps à méditer sur sept principes pour ceci et pour cela, et jamais sur la vérité de la parole de Dieu. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour et on parlait de livrer bataille dans certaines situations. Je lui disais, oui, c'est très bien de déclarer des versets sur la victoire. Mais il faut encore savoir qui tu es en Christ. Il faut encore savoir qui est Dieu. Il faut avoir cette sécurité dans la relation que tu as avec Dieu. C'est ça qui fait que je peux dire, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? C'est ce qui fait que je peux mépriser les efforts de l'ennemi de venir contre ma vie, parce que, franchement, je me prends pour qui? Parce que je suis assise dans la vérité. La vérité sur le but de Dieu, sur le plan de Dieu pour ma vie, sur ce que Dieu a envie de faire, sur la réalité. La vérité sur ce que Dieu pense de moi. L'évangile, c'est la vérité. Jésus est la manifestation visible de Dieu. Tout ce qui est dessein de Dieu, cœur de Dieu, plan de Dieu est révélé dans la personne du Christ. Et en méditant sur lui, nous comprenons qui est Dieu et ce qu'il a dans son cœur nous concernant. Et le premier péché d'Adam et Ève est venu par l'absence de cette vérité. Parce qu'ils n'avaient pas cette... Lorsque le diable est venu leur dire des choses sur Dieu, il a porté atteinte au caractère de Dieu. Dieu ne veut pas que vous mangiez de cela parce qu'il sait que si vous le prenez, voilà ce qui va arriver. Et il ne le veut pas. Elle dit, ah bon? Comme ça, Dieu nous cache des choses. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui avec les chrétiens. La vérité de ce que nous sommes en Christ. Ne pas continuellement céder au même mensonge. Oui, mais tu sais, si la Bible te dit ceci, c'est parce que ça. Si toi, plutôt, tu fais ça. Ah, d'accord. Alors, le Seigneur, lui, nous dit ça, mais en fait, la réalité de Jésus, la vérité de ce que Dieu est, ce que Dieu a sur son cœur, quel est le plan de Dieu, du salut, la vérité de l'évangile, les doctrines de Christ, de la parole de Dieu, doivent être ancrées en moi. Quand nous faisons le cours racine, que certains prennent à la légère, c'est pour que ces vérités soient ancrées en nous. De qui est Jésus? Qui est l'homme? Qui suis-je? Comment est-ce que je me situe dans cet univers? Dans toute cette réalité? Quel est le cœur du Père? Qui est Dieu? La vérité. Et une des choses qui m'ont amener progressivement vers Dieu, c'était la prise de conscience du fait que la vérité ne pouvait pas être relative. Sinon, elle n'est plus vérité. Et les gens essayaient de me convaincre que la vérité, en fait, était relative, c'est en fonction de... Mais la vérité ne peut pas être en fonction de moi. Ça doit être en fonction de quelque chose à l'extérieur de moi. Et c'est cette recherche de la vérité. Quelle est la vérité? Moi, ça me parle parce que c'était ça ma recherche. Tout n'est pas vrai. Des choses contraires ne peuvent pas être vraies. Chacune ne peut pas être vraie. Il doit y avoir une qui est vraie et les autres qui sont fausses. Quand je suis venu à Jésus, j'ai compris que Jésus était la vérité. Les principes de Jésus sont la vérité. La doctrine de Christ est la vérité. Et nous devons en être imprégnés. Je dis tout le temps, c'est pas simplement quand, avant de connaître Jésus, je n'arrivais pas à dormir, maintenant je dors bien. Jésus n'est pas un somnifère. C'est bien qu'il vous fasse dormir. Il nous fait beaucoup de bonnes choses. Mais Jésus est une réalité au-delà de ce qu'il fait pour moi en ce moment. Et c'est ça que je dois connaître. Parce que Satan va toujours essayer de mentir sur Dieu, ce que Dieu est, ce que Dieu fera, ce que Dieu pense, comment Dieu te voit. Nous allons voir que ces principes sont tous liés et nous ramènent au même point de départ. La vérité, dites vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Éphésiens 1, 13 nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qu'il avait été promis. Devons aimer la vérité plus que les nouvelles voitures. La vérité. Et ça, c'est vraiment la réalité. Parce que certains savent que j'attends une nouvelle voiture, mais nous devons aimer la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Dites justice. Justice. Justice, c'est un très joli mot, théologiquement. Et je dois vous avouer que je préfère le mot anglais, righteousness. Justice. Parce que souvent, lorsque nous parlons de justice en français, les gens pensent à la justice. Et qu'est-ce que la cuirasse de la justice? Ils portaient leur cuirasse qui protégeait devant. Et certains disent d'ailleurs que c'est en deux parties, qu'il y a une partie qui protège devant et une partie qui est derrière. Mais toute cette partie ici était protégée. Et donc nous devons être totalement protégés. Et lorsqu'on parle de la justice, on parle du fait que Dieu nous a déclarés justes. Ça, c'est quelque chose que nous aimons beaucoup dans cette église, n'est-ce pas? Nous parlons du fait que nous avons été justifiés. Qui veut dire nous avons été déclarés non coupables. Est-ce que vous comprenez? Pas simplement que nous avons été pardonnés, mais Dieu a déclaré que vous n'êtes pas coupables. Et donc, nous avons été justifiés. Et le mot righteousness, justice, veut dire que nous avons été positionnés en Dieu comme des gens qui sont justes. Et quand Dieu me regarde, il regarde quelqu'un qui considère comme étant juste. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que une des choses contre lesquelles nous avons à combattre, c'est des accusations. Si vous êtes chrétien depuis plus de 2 minutes, vous aurez déjà vécu des accusations. La parole de Dieu nous parle de celui qui est l'adversaire, l'accusateur des frères. Et une des attaques de l'ennemi contre votre vie sera toujours de vous accuser. Tu es ceci, tu es cela, tu n'es pas bien, tu n'es pas ceci, tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas, qu'est-ce que Dieu doit penser de toi? Oh, Dieu ne t'aime pas, Dieu n'est pas content de toi, Dieu n'est pas ça, tu es ceci, tu es ceci, aïe, 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 alléluia, alléluia, je bénis, bénis le Seigneur. J'ai l'impression que si Dieu vous voyait dans la foule, il va certainement vous frapper. Vous êtes là. On se lève? Non, on se lève pas. Pas tout de suite. Nous avons été déclarés justes. Nous avons été positionnés en Christ. Il y a une expression en anglais, on dit right standing with God. En d'autres termes, nous sommes en bon terme avec Dieu. Et la conscience de cela est nécessaire pour un chrétien pour pouvoir résister aux attaques de l'ennemi. Parce que l'accusation est une des armes puissantes du diable. Et quand vous êtes conscient du fait que vous avez été positionné en Dieu, ça change votre manière de vous comporter. Parce que vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez. Ce qui veut dire que là où vous aviez l'habitude de mentir tout le temps, là vous dites, non, fou, c'est fini. Ah oui, alors seul, et vous commencez à raconter une histoire, dites, en fait, disons que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Alors qu'avant, vous l'auriez raconté avec allégresse, ajoutez encore un peu, ajoutez encore une couche, et encore une couche, encore une couche. Quand vous prenez conscience du fait que Dieu vous a déclaré juste, et vous a positionné en lui, qu'il n'y a pas d'ombre entre vous, vous voulez que les choses restent comme ça. Une des raisons pour lesquelles je me reprends beaucoup, c'est que j'ai pas envie que quoi que ce soit vienne entamer ma relation avec Dieu. On est tellement bien ensemble. Est-ce que vous comprenez? On est bien ensemble. Et vraiment, je pardonnerai à n'importe qui, juste pour que lui et moi, on reste comme on est. La conscience de ce que Dieu vous a déclaré juste et vous a positionné en lui. Et quand le diable vient vous dire tout ce que vous n'êtes pas, vous lui dites tout ce que vous êtes. Donc tu ne comprends pas, c'est que je suis ceci, mais je suis né de Dieu. Et une autre chose par rapport à la justice, c'est prendre conscience du fait que vous n'êtes plus sous l'emprise du diable. Est-ce que vous imaginez à quel point ça doit lui faire mal de vous avoir perdu? Parce que certains d'entre vous, vous étiez des champions dans le péché. Amen. Alléluia! Et quand Satan venait frapper, tu fais ça, tu dis, oh oui, oui chef. Cours après la fille, oui chef. Désobéis à tes parents, oui chef. Dès qu'il donnait un ordre, il savait que vous alliez exécuter. Et tout d'un coup, vous changez de camp. Non seulement vous changez de camp, vous commencez à déclarer que vous avez été déclaré juste, que Dieu vous a justifié, que Dieu vous a déclaré non coupable, que vous appartenez à Dieu et que maintenant il vient vous dire, ah, tu vois, cette fille, elle est jolie, vas-y. Non! Quoi? Il y a un serviteur de Dieu qui disait qu'il était tellement dans le péché avant de connaître Dieu, que le jour où il est venu à Christ, le diable a perdu un grand homme. Et il ne l'a toujours pas digéré. Et c'est pour cela que nous avons constamment à le mettre à sa place, parce qu'il n'a toujours pas digéré sa défaite. C'est une chose qu'il a été vaincu par Jésus. Mais que des êtres humains, des mortels, sur qui il a dominé pendant des générations, maintenant se lèvent pour tout. Alléluia, c'est ça qu'il faut faire au diable. C'est ça qu'il faut lui faire. Je veux dire, down! Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas? Démonstration! Gloire à Dieu! C'est ça! Tu te crois où? Bam! Et des êtres humains sur lesquels il a dominé pendant des générations, maintenant se lèvent parce qu'ils n'imaginaient pas à quel point la victoire de Jésus allait être totale. Maintenant, ils se lèvent, non seulement ils refusent de se laisser dominer, mais maintenant ils prennent autorité sur lui. Et cette conscience de ce que nous sommes en Christ, déclarée non coupable, qu'il n'y a rien, Dieu n'a rien contre vous, et que j'ai libre accès au Père, je me sers de ce libre accès, ce qui fait que quel que soit ce qui vient dans ma vie, je ne suis pas là dans mon coin, je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive, je ne vais plus à l'église, tant que ce n'est pas réglé, je ne suis plus à l'église. Quoi? Par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, hey. Il m'a relevé, et quand je sais cela, je suis accroché à Jésus. Que le monde entier me tombe sur la tête. Je suis justifié, réconcilié, en bon terme avec Dieu. Ce n'est pas parce que le diable fait des siens que je vais laisser ça entamer ma relation avec Dieu. Je vais encore plus près, je colle ma tête sur sa poitrine. Et je dis, je t'adore mon papa, tu es trop merveilleux, j'ai libre accès à toi. Pendant des générations, les hommes n'avaient pas libre accès à Dieu. Maintenant, nous avons été justifiés. Et nous avons libre accès. Et nous savons que le plan de Dieu pour nous est bon. Lorsque vous savez que vous êtes positionné en Christ, vous avez libre accès à Dieu. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous pouvez lui faire confiance. Quand l'ennemi vient vous dire, non, prends ce raccourci. Là où tu vas, suivant le plan de Dieu, c'est pas bon. Non, 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 non. Il y a Dieu, celui qui m'a réconcilié, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a positionné en lui, il sait ce qui est bon pour moi. Il sait où je dois être, comment je dois être, et je vais suivre son plan à lui. Et je ne vais pas faire la même chose qu'Adam qui a décidé que finalement c'est toi qui as raison. Dieu lui a dit ça, mais finalement peut-être que Dieu n'a pas raison. Il t'a dit, non, je ne te suis pas. Je suis le Seigneur. J'ai été justifié. J'ai été réconcilié avec Dieu. Et je reste réconcilié. Je ne fricote pas avec le diable. Ce qui fait que quel que soit ce qui vient dans ma vie, j'ai une pleine assurance que j'ai l'oreille de Dieu. Ah, oh, pasteur, prie pour moi, parce que je ne sais plus. Non, j'ai l'oreille de Dieu. Et lorsqu'on prie pour moi, je ne suis pas là, amen, j'espère que ça va. Non, je sais, j'ai l'oreille de Dieu. Quelqu'un qui a l'oreille de Dieu a aussi prié avec moi. Nous nous sommes mis en accord, c'est bon. Amen. Parce que nous avons été justifiés. Nous avons été positionnés en Christ. C'est là ma position spirituelle. Ça change toute ma façon de voir et de faire et de réagir dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, je ne suis pas catastrophée. Je savais que ça allait m'arriver. Ça m'arrive toujours ce genre de choses. Je suis comme mon père. Pourtant, je suis chrétien. C'est à quoi que moi, je riais dans le royaume. Quoi? Non, je suis justifiée. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus, positionnée à côté du Fils de Dieu. Jésus et moi, nous sommes voisins de palier. Donc, ce qui est arrivé, moi, je n'ai pas vu, mais c'est sûr que ce n'est pas une nouvelle pour le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu vois, moi, je n'ai pas vu, mais manifestement, toi, tu le savais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous comprenez la différence? Entre, oh, le ciel m'est tombé sur la tête. Aïe, 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 aïe. Ah, bah, c'est, je le crois, je le vois. Même une surprise momentanée, vous êtes là, wow! Là, je dis, non, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je suis positionné en Dieu. Dieu est mon Père. Je suis son enfant. Il sait qui je suis. Il sait, il connaît toutes les circonstances de ma vie et il a une réponse à ça aussi. Et donc, quand la nuit vous êtes réveillé, ça vous est jamais arrivé des situations que vous réveillez la nuit, vous avez un sentiment de terreur. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me recoucher. Il ne sommeille, ni ne dort. C'est pas la peine qu'on reste tous les deux éveillés. Parce que je sais où je suis positionné en Dieu. À cause de ça, quand le mauvais jour vient, je tiens tête. Je tiens ferme. Comme dit la parole de Dieu, je tiens ferme. J'ai la vérité comme ceinture, j'ai la cuirasse de la justice, je sais qui je suis en Christ, je sais où Dieu m'a positionné, je sais quel est le cœur de Dieu pour moi, je ne vais pas aller chasser sur les terres de l'ennemi. Non. Positionné en Christ. Qu'est-ce que je fais dans Isaïe? C'est toi qui as ouvert dans Isaïe. Positionné en Christ. Parce qu'il nous a ressuscités ensemble. C'est ça votre position en Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Et c'est à partir de cette conscience et de cette révélation de la vérité de Dieu, du fait que je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. C'est à partir de cette révélation que je commence à déclarer la parole de Dieu. C'est à partir de cette révélation que je fais mes choix dans la vie. Et nos choix sont essentiels. Parfois, les gens viennent voir, ils en ont fait de ces choix, et ils viennent vous dire, Faustin, il faut que tu arranges tout. Vraiment? Il faut peut-être défaire certains de ces choix. Ah non. Ce que nous savons sur notre position en Christ détermine les choix que nous faisons dans la vie. Parce que l'ennemi va mettre la pression sur vous pour que vous fassiez des choix qui correspondent à lui et qui parfois vous semblent être les seuls choix possibles. Lorsqu'on regarde avec des yeux humains. Mais lorsqu'on a une compréhension des choses de Dieu, on voit autre chose. Et nous fonctionnons à partir de l'invisible. Et c'est l'invisible qui change le visible. Et beaucoup de chrétiens sont soumis au visible, influencés par le visible. Font le choix sur la base de ce qui est visible. Visible, tout ce qui est dans le terrain naturel, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce que les gens disent. Oui, mais les gens disent que, et alors? Ce n'est pas parce que les gens le disent que vous devez le croire. Ce n'est pas parce que les gens le disent que vous devez l'accepter. Que Christ soit vrai est tout un menteur. Si c'est opposé à ce que Dieu dit, vous dites non. Vous tenez ferme. Oui, mais on doit le faire parce que s'ils le disent, si on ne le fait pas, on va être viré. Je ne le fais pas. C'est contraire à la parole de Dieu. Et ça peut déclencher une guerre contre vous au travail, mais vous tenez ferme. Parce que vous avez la vérité, vous savez que vous êtes la justice de Dieu et que toute âme forgée contre vous sera sans effet. Alléluia. Et donc, tenez ferme quand l'opposition vient parce que vous avez fait un choix selon la parole de Dieu. Et vous avez décidé que vous n'allez pas aller dans le sens des gens du monde. Et ils vont vous attaquer, oui, mais parce que les gens se sont remis en question. Oui, parce que nous, on est des pécheurs, c'est ça? Je ne sais pas ce que vous êtes, mais je sais ce que je suis. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Et moi, étant la justice de Dieu en Christ Jésus, je fais mes choix. Chacun fait ses choix. Et parfois, ça déclenche la persécution. Et alors? Vous tenez? Ferme. Et si Dieu nous dit de tenir ferme, excusez-moi, c'est que nous sommes capables de tenir ferme. La justice. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. J'ai confiance en Dieu. Celui qui a fait tout ça pour moi, il est capable d'assurer le reste de mon existence. J'aime beaucoup ce chant qui dit, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais l'endemain sont assurés. Il tient ma vie. L'éternité, je sais qu'il vit. Because he lives. Hey, I can face tomorrow. Because he lives. All fear is gone. Because I know. He holds my future. Because he lives. Parce qu'il vit. C'est une conscience de la réalité de Dieu, de la vérité, de la justice qui pénètre à l'intérieur de moi, qui fait que je ne fléchis pas les genoux devant le diable. Et je fais les choix parfois difficiles d'obéir à Dieu. Et je tiens tête à tous ceux qui veulent m'amener dans un autre sens. Et je refuse la facilité parce que je sais qu'il vit. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je sais, comme dit Job, que mon Rédempteur vit. Une nouvelle génération de chrétiens qui a quelque chose dans le ventre. Nous ne pouvons pas changer un monde auquel nous nous conformons. Et nous ne pouvons pas résister contre un ennemi dont nous adoptons les tactiques. Vous ne pouvez pas vous soumettre à Satan ici et lui résister là. Et il y a trop de mélange dans nos vies. En coup, nous sommes là. C'est le prince des mensonges et nous participons à ces mensonges. Tout ce qu'il nous dit, nous répétons. Ah, oh, des mensonges sur terre, des mensonges sur terre, des mensonges sur terre. Et après, nous venons là au nom de Jésus. Il se moque. vérité. La vérité, c'est aussi nous qui vivons dans la vérité. Pas dans la duplicité. Trop de duplicité dans nos vies. La vérité. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et Dieu attend ces moments-là où nous allons tenir ferme. Dieu, il prend plaisir en ce moment-là où ses enfants sont face à des choix difficiles et il les regarde et les anges, ils vous regardent. Ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Et la parole de Dieu nous dit que les saints, regardez dans Hébreux 12, c'est une image extraordinaire. Des témoins qui regardent. Et les anges sont là et regardent qu'est-ce qu'elle va choisir, qu'est-ce qu'il va décider. Et Dieu sait qu'on nous sommes face à des choix difficiles. Mais il attend que nous fassions le bon choix. Et le bon choix, c'est sur la base de la révélation de la vérité, de la justice que nous avons. Et c'est là où vous grandissez, vous êtes là, oh, oh c'est pas, mais je choisis d'aller dans le sens de Dieu. Et vous gagnez en autorité, vous gagnez en puissance, vous gagnez en victoire, vous gagnez des galons dans le monde spirituel. Et là où Satan vous résistait pendant 2 jours, là, la résistance est raccourcie. Là, vous voyez, plus vite des réponses au prêt, vous dites quelque chose, waouh, il se produit. Parce que vous êtes en train de montrer qui vous êtes dans l'esprit. Vous êtes en train de vous démarquer des gens qui sont là, qui aiment Jésus, mais mon Dieu, le mélange. Et il dit aussi, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il y a une dernière chose par rapport à le fait d'être dans la justice. Je l'ai déjà dit, le fait de savoir que Dieu vous veut du bien. Ça vous donne la joie en Dieu, la satisfaction dans votre vie avec Dieu. Vous n'êtes pas en train de chercher des raccourcis. Mais ça enlève aussi la conscience du péché. Qu'est-ce que je veux dire par conscience du péché? Je ne dis pas qu'il faut pécher allègrement. Je dis qu'il ne faut pas rester dans la condamnation. La Bible dit que nous ne sommes plus sous la condamnation. Et donc, il n'y a plus de condamnation. Et le fait de savoir que nous avons été pardonnés de beaucoup nous pousse à vivre dans la sainteté. Et plus vous vivez dans la sainteté, moins le diable a de l'emprise sur vous. S'il y a quelque chose que Jésus disait qui m'épatait beaucoup, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ce que l'ennemi utilise contre nous, principalement, c'est ce qu'il voit en nous. Tel frère peut être démonisé autant qu'il veut, ça ne peut rien contre moi. Mais ce qu'il voit en moi, les portes que moi j'ouvre, c'est ça qui donne accès. Alléluia. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans le grec, c'est le mot etoimasiai. Qui veut dire se préparer, s'apprêter, être sur le qui-vive, être disposé à agir, prêt pour l'action. Un passage de l'apôtre Paul dit, préparez vos cœurs pour l'action. C'est pour ça qu'il est traduit zèle. Et est tellement imprégné des vérités de l'évangile que cela vous a transformé. La passivité est partie. Vous êtes quelqu'un d'actif, de bien disposé, de prêt, qui bouge, qui agit. Quand Dieu dit, vous dites. Quand Dieu dit fait, vous faites. Quand Dieu dit, on va aller dans ce sens, ouais. Oh, mais pourquoi? Il faut encore jeûner? Mais on avait jeûné il y a 2 ans. Un bon jeûne, mais je peux boire du café et du thé, hein. Oui, bon, est-ce que je peux jeûner le petit-déj? Je peux jeûner les fruits le matin. Comme ça, je mange que du pain, des croissants, des œufs, mais je prends pas de fruits. Oh bon, d'accord, on va jeûner. Mais c'est la dernière fois cette année, hein. Faut pas abuser, hein. Donc, je connaissais quelqu'un. C'est vrai qu'ils jeûnaient beaucoup dans leur église, et même moi. Je savais que c'était peut-être un peu beaucoup. Chaque fois que je la voyais, ils étaient en jeûne. Mais la personne jeûnait en maugréant. Alors j'arrivais chez elle, elle disait, « Oh, elle est en jeûne. Oh, ce jeûne. » Mais tous les jours, elle se plaignait du jeûne. « Mais il faut arrêter de jeûner. » Ah non, mais tu sais, on est en jeûne. Je dis, mais non, ou tu arrêtes de jeûner, ou tu jeûnes et tu ne te plains pas. Ouais, tu sais, ce que tu fais, c'est une grève de la faim. Ça n'a aucune conséquence spirituelle parce qu'il n'y a pas de zèle. Il n'y a pas de désir. Et l'évangile de Dieu, le fait que nous avons la paix, c'est l'évangile de paix, le fait que nous avons la paix avec Dieu. Est-ce que ça ne vous épate pas le fait que vous avez la paix avec Dieu? On n'a pas toujours la paix avec tout le monde. Tant que ça dépend de nous, nous vivons en paix. Mais s'il y a des gens qui refusent de vivre en paix avec vous, ça ne vous est jamais arrivé? Vous n'avez jamais vu des gens qui ont décidé qu'ils ne vont pas s'entendre avec vous? C'est un choix qu'ils ont fait. Sans fondement objectif, ils ont décidé qu'ils ne vont pas s'entendre avec vous. J'aime pas sa tête. Oh, elle crie trop, elle parle trop fort. Nous avons la paix avec Dieu. L'évangile de paix. Et toutes ces choses doivent provoquer en nous du zèle. Du feu. La passion. La vigueur. La disponibilité. Le désir de servir. D'avancer. De faire ce que Dieu veut. De dire ce que Dieu veut. Si le Seigneur le veut, c'est bon. Nous allons jeûner. Ouais! Abraham, nous allons jeûner? Oh. Ils se disent, ouais, là, que le pasteur maintenant, il va finir en annonçant un jeûne. Nous allons jeûner?
Amen.
Seigneur, pour cette église, le zèle que donne l'évangile de paix. Et cette disponibilité à l'égard du Seigneur. Je dis souvent, parfois, les gens donnent des témoignages, genre, waouh, Dieu m'a appelé. Et j'ai résisté longtemps. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 15 ans. Et finalement, je me suis laissé faire. Et maintenant, je sers le Seigneur. J'ai quoi? Ben, c'est bien d'avoir accepté finalement. J'ai dit, Seigneur, il y a mieux quand même. Il y a mieux. Ce qui est mieux, c'est Dieu dit et je dis oui. Dieu dit, vu que tu vas aller dans la nation, j'y vais, Seigneur. Il faut tendre vers cela. Être malléable entre les mains de Dieu. Dieu sort quelque chose que vous n'aviez jamais imaginé au lieu de faire, ah ça, wow, non, c'est le diable. Non, oh non, je refuse au nom de Jésus. Ah oh ouais, mais tu sais, cette idée d'aller faire la mission au Japon? Mais il n'y a pas de Bouddha au Japon! Il y en a qui se sont divisés. Alléluia. Non! Non, au Cameroun! Oh! Mais c'est l'Afrique! Oh, l'Afrique du Sud, peut-être. Le zèle que donne l'évangile de paix. Imprégné de la vérité de l'évangile, de la parole de Dieu, au point où ça change quelque chose en nous. Notre attitude envers Dieu change. Notre attitude envers l'œuvre de Dieu change. Notre attitude envers les choses de Dieu change. Nous sommes disposés à tes ordres, Père. What's next? Qu'est-ce que tu as sur ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de me demander? Vous arrive de demander ça à Dieu? Surtout qu'il ne me demande rien. Parce que là, vraiment, je fais assez. Hein. Alléluia, je t'aime, Seigneur. Non, Seigneur, tu me demanderas après. Mais laisse-moi simplement te dire que je veux te bénir. Tu me parleras après. Moi, je veux te bénir. Mais cette disponibilité pour dire, Père, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'il y a un endroit où tu as besoin de quelqu'un? Moi, je suis là. Je suis là. Tu vas surtout pas faire sans moi. Surtout pas. Les choses ne vont pas se passer sans que je sois dedans, Père. Je suis ton enfant. Je suis zélé. Alléluia. Abba, son somme? Ne le dites pas avec beaucoup de zèle, hein? Oh, nous sommes? Yannis, Abahas, nous sommes? Gloire à Dieu. Lui et moi, on a des conversations là-dessus. Sur le zèle que donne l'évangile de paix. Quand je suis conscient du fait qu'il m'a sauvé, il m'a délivré. Là, je peux dire ce que Dieu veut, Dieu obtient. Dieu obtient parce que je le donne. Je l'accorde de bonne grâce. Alléluia. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ce sont toutes ces choses qui nous permettent de résister. 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 Vous êtes appelés à résister. Dieu a envie d'un peuple qui va lui rendre honneur sur la terre. Dieu a envie d'un peuple qu'il va regarder faire les œuvres de Jésus. Nous avons assisté à cette conférence sur la guérison. Nous avons vu des gens guéris. Et nous en verrons encore plus au fur et à mesure que le peuple de Dieu saisisse sa place. Et la guérison, ce n'est pas quelques hommes de Dieu qui viennent guérir. Et c'est pour cela que moi, personnellement, j'aime l'enseignement. Parce que le but, c'est d'équiper le corps de Christ à faire l'œuvre de l'évangile. Je ne suis pas satisfaite si tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, c'est compris pour les jeunes, les gens reçoivent. Je veux qu'on apprenne aux gens comment faire. Je veux que chacun soit armé et dangereux. Et que là où vous êtes, vous n'avez pas besoin de m'appeler pour venir prier pour quelqu'un. Là où vous êtes, vous prenez autorité. Vous priez et vous voyez les mêmes résultats que à l'église. Parce que nous avons bu du même esprit. Et vous êtes un géant entre les mains de Dieu. Vous êtes dangereux. Vous êtes puissant en Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes dans le naturel, mais avec ce que vous êtes dans l'esprit, assis dans les lieux célestes avec Christ. Et cela a tout à voir avec la puissance de celui que vous représentez, celui qui est derrière vous. Votre grand frère, quand les enfants vont à l'école, quand ils sont tout seuls, ils sont comme ça. Mais quand le grand frère est derrière, tu connais? C'est Philippe, c'est mon grand frère. Le grand frère est derrière vous. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous avons été justifiés, réconciliés avec Dieu. Jésus est là. Et parfois, dans les combats, la seule chose que vous savez, c'est que Jésus est là. Dites-le. Vous ne savez rien d'autre. Vous n'avez pas l'issue, mais vous savez que Jésus est là. Dieu, ah non, Jésus est là. En ce moment, Jésus tient ma main. Il tient ma vie entre ses mains. Et en ce moment, je suis redoutable. Quand vous êtes là, vous dites, oh Seigneur, non, je suis redoutable. Et progressivement, j'en prends conscience. Quelque chose vient, il vous assomme en cou, vous relevez la tête. Non. Mon témoignage n'est pas le témoignage de ce que je vois dans le naturel. Mon témoignage, c'est le témoignage de ce que la parole de Dieu dit, ce que je suis dans l'esprit. Et cette réalité-là va changer cette réalité naturelle. Et l'invisible va transformer le visible. Et armé de ces vérités, armé de ces révélations, nous tenons ferme et nous résistons. Et la semaine prochaine, nous allons voir le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et Abba House, on aime la parole de Dieu. Vous n'êtes pas convaincus? On aime la parole de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur.